Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 5 mai 2007 et il est exactement midi dans vos oreilles.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, TV et cinéma. Suivi de ça, c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. Et ensuite, à 15h, le potager, c'est de la musique. 16h, transcène, transmission, la dernière actu live. 17h, Big Bang. 18h, vie d'ordure. 19h, Happy Hour. 20h, la Stétéro Experience. 21h30, Stay Tuned. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net. Et pour l'ouverture de nos programmes, c'est bien évidemment moi, Xavier, avec vous, sans Thomas, pour et avec bientôt du sport pour le supplément week-end. Pas de Thomas aujourd'hui, on expliquera plus tard pourquoi. On a une grosse interview très attendue, il s'agit de Boulet et de Lucie Albon pour le vœu de Simon. Vous verrez ça tout à l'heure et plein d'autres joyeusetés. En attendant, on va s'ouvrir tranquillement et sympathiquement l'émission. Smash and Mighty Seeds, More Worker Remix. Vous êtes sur FMR, seul supplément week-end.
Bust this. power and perception, rude boy, and not justice. That's why I love this documentary on reality within society. My principality is to live by God and not the gun, and getting ready for the forthcoming, talking with my son about the sea. They're not they're gonna get ready for the forthcoming, talking with my son about the sea.
Le supplément week-end sur Radio FMR qui commence comme d'habitude par une interruption musicale. Smith and Mighty Seeds Marooker Remix. Et on va commencer de suite par les news en ville avec Besseron qui est entre autres dessinateur au label indépendant Les Requins Marteaux, label albigeois, pour lequel il fait pas mal de choses, mais aussi on retrouve des fois des dessins dans le Satiricon. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui pas de politique, donc on va essayer de ne pas trop parler ou de prendre position, d'accord. Donc dans le trimestriel le Satiricon, et ben Besseron est un dessinateur à la fois d'opinion et à la fois d'histoire complètement frappadingue et allumée. Il avait fait notamment un très très bon livre sur le 21 septembre 2001 de Sinistre Mémoire à Toulouse. Sachez qu'il exposera du 9 mai au 2 juin au Voltigeur, la galerie d'art consacrée à la bande dessinée, qui est 26 rue des Couteliers. Vernissage aura lieu d'ailleurs vendredi 11 à 18h30 avec en concert les Catistics. Et pour information complémentaire, Besseron présentera ses œuvres, des Rocs à Marteau et plein d'autres choses. Donc vous pourrez le rencontrer. C'est quelqu'un qui est assez timide, quoi, qui ose pas dire les choses et tout, mais qui est vraiment intéressant et qui a un trait qui est. Qui est plein de promesses quand même, je tiens à vous le dire. Le Voltigeur, c'est 26 rue des Couteliers. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a des rumeurs qui courent en ville comme quoi le Voltigeur, on ne sait pas si ça va durer très longtemps. Ce serait bien dommage, c'est quand même un lieu où la bande dessinée est accessible aussi comme œuvre d'art. Et peut-être que c'est la dernière occasion de découvrir ce lieu assez magique dans le regard, je veux dire. La semaine prochaine, il y aura une table ronde autour des mangas qui aura lieu à la médiathèque José Cabanis. Non pas la médiathèque associative, mais bien la médiathèque José Cabanis. Ce sera samedi 12, donc à partir de 15h, avec Sébastien Langevin, qui est journaliste et critique spécialisé autour des mangas, où il a animé d'ailleurs la rubrique du magazine Bodoy sur la bande dessinée asiatique, et va être rédacteur en chef du magazine Canal BD Manga, qui va bientôt paraître. Canal BD, c'est l'outil de communication du public des libraires spécialisés bande dessinée qui font partie de l'association ALBD. Il a également coécrit avec Stéphane Ferrand l'essentiel manga, l'essentiel Milan consacré au manga, qui est un bouquin qui est une très bonne introduction en la matière. Patrick Abri, lui, est éditeur de Chiaopan, un éditeur qui est spécialisé dans la bande dessinée chinoise. On l'a déjà reçu plusieurs fois sur cette antenne et il a édité notamment Benjamin, un auteur qui graphiquement nous a mis par terre. Et c'est pas fini, il y a d'autres choses qui arrivent qui sont extrêmement intéressantes. Et donc c'est une table ronde que... Ouais, ça y est, on va dire que je ne passe plus la porte et tout. Ben voilà, c'est moi qui vais l'animer, donc n'hésitez pas à venir. Si vous voulez poser des questions sur la bande dessinée asiatique, si vous voulez poser des questions sur la bande dessinée en général, venez nombreux, on va faire quelque chose en fonction du public qu'il y aura. Et promis juré, j'y mettrai un petit peu d'animation et on va bien s'éclater. Ce sera l'occasion justement de parler avec des gens qui font que cette bande dessinée d'origine asiatique et orientale débarque en France. Et il y aura plein de choses, à mon avis, que vous découvrirez, pas seulement dans ce que l'on va dire, mais dans les questions que vont sûrement poser les autres, et pourquoi pas vous. Sarko Ier ou la voix royale. Et mince, je l'ai dit, fallait pas donner les noms. Oui, aujourd'hui c'est la journée de réflexion. Toujours basé sur une minutieuse enquête de Philippe Cohen, Richard Malka et dessiné par Rhys, les auteurs de la face cachée de Pip, la première BD enquête qui a eu plus de 500 000 lecteurs et dont on a passé l'interview en février dernier dans cette émission. Philippe Cohen est l'ancien rédacteur en chef d'Info Matin, ça a été le rédacteur en chef adjoint de Marianne, le co-auteur avec Pierre Péan de La Face Cachée du Monde, du journal bien sûr. Richard Malka est un avocat spécialisé dans le droit de la presse, qui a été entre autres défenseur de Charlie Hebdo. Et il est aussi scénariste avec des séries comme L'Ordre de Cicéron chez Glénat et Section Financière chez Vendouest. Rhys est un dessinateur qui est plus un caricaturiste dans Charlie Hebdo et qui s'est lancé... aussi dans des bouquins d'actualité comme le procès Papon et le procès Touvier. Alors, ce livre qui va sortir reprend l'épopée électorale des 12 prétendants qui purent rassembler 500 signatures pour se présenter au premier tour. C'était une véritable prouesse pour les auteurs qui, en janvier dernier, nous avaient annoncé dans l'interview de leur précédent livre que cela avait pris plus d'un an. Et ben ici, la dose sera allégée puisqu'il n'y aura que 48 pages contre 155 pour ce que vous savez. Et vous saurez tout sur les luttes intestines au sein de chaque clan et les shows médiatiques des candidats, les gaffes de tout, les calculs de tout, les cuisines des sondeurs, les secrets du phénomène tout, les manœuvres des candidats pour les 500 signatures. Alors Rhys le certifie, un livre n'influence pas une élection présidentielle. Non, mais l'inverse est vrai. Alors, qui sera en couverture? Est-ce que ça va être premier, où la voix... Eh ben, est-ce que ça va être l'obsédé compulsionnel du mot juste ou l'ubiquité d'un déstressé notoire? Quel que soit son nom et sa couverture, l'album sera en vente en librairie le 15 mai prochain. Et on passe une dépêche, donc tout de suite les infos.
And now, the news.
Bonjour à vous. Petit rappel pour que vous signalez que demain on vote pour le second tour des élections présidentielles et ce n'est pas pour ça que Thomas n'est pas présent aujourd'hui dans le supplément week-end et est retourné chez sa mère, mais aussi parce qu'il avait du linge sale. Les absents ont toujours tort. Du sport commence à regarder les BD qui vont être chroniqués tout à l'heure et il y a du lourd, il y a du lourd. Et là, ce bouquin est buggé. Il y a les dernières pages, il y a eu une répétition du dernier cahier, il manque une partie. Au moins, t'as l'essentiel. C'est dommage, mais ça vaut le coup. Enfin, ça, on en reparlera tout à l'heure. Là, on en est sur littéralement autre chose. Puisque le vœu de Simon de Boulet et Lucie Albon, Boulet au scénario cette fois-ci et Lucie Albon au dessin, vient de sortir dans la collection Clé des Champs chez la boîte à bulles. On avait eu l'album en vraiment avant-première, c'est-à-dire les planches quasi définitives lors du festival de la bande dessinée d'Angoulême, enfin un peu avant. Donc on s'est dit avec Thomas, on va rencontrer Boulet et Lucie Albon. Et on va leur poser des questions justement sur ce bouquin. Et aussi, après, on a fait une autre interview que vous aurez dans une autre émission. Le vœu de Simon. Cela parle de l'association qui soulage. L'association qui soulage n'a qu'un but. Vous aider à oublier votre douleur. Les receveurs prennent votre mal en l'extirpant de votre corps et en la subissant à votre place. Car c'est le vœu de Simon, docteur, qui s'est retrouvé par hasard devant une lampe magique et dont le génie qui s'y nichait depuis 3 millénaires a exaucé le vœu, soulager les gens de leur douleur. Sous un dessin qui va à l'essentiel et les couleurs acidulées, une histoire qui n'est pas si enfantine que ça. Le vœu de Simon est la suite émouvante du vœu de Jean, qui est d'ailleurs préfacé par Charles Berberian, c'est un joli featuring quand même. Et si on pouvait échanger nos douleurs par des câlins gratuits? Tu sais, des free hugs du sport. Allez, câlin, câlin. Il y a d'ailleurs une flash mob de Free Hugs de câlin, je ne sais plus quand, je crois que c'est aujourd'hui, d'ailleurs cet après-midi, place du Cap. Et d'ailleurs à ce stade, spécial dédicace à ma douce et tendre enflammée. Pour info, donc, Boulet dessine Ragnarok, la rubrique scientifique, et un donjon qui est toujours en cours de dessin et scénarise Womox. Mais il tient aussi un excellent blog, bouletcorp.com, qui est très 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 fréquenté. Lucie Albon fait partie du collectif Café Creed qui sort chaque année Choco Creed, la sucrerie la plus attendue du festival d'Angoulême. C'est à chaque année, c'est un bouquin qui est format disque 45 tours en couleur sur un très beau papier avec un très beau dessin destiné aux enfants mais que les adultes lisent avec beaucoup de plaisir. Elle dessine aussi des albums jeunesse dont 7 mois au Cambodge. Son site c'est lucialbon.net. Thomas et moi les avons rencontrés lors du dernier festival d'Angoulême, c'était en janvier dernier.
Lors du festival. Boulet, bonjour.
Bonjour.
Lucie Albon, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de sortir lors du festival d'Angoulême. Donc il y a le vœu de Marc qui vient de sortir à la boîte à bulles et il y a le suivant, au moment où cette interview sera diffusée, qui sera sorti, le vœu de Simon. Alors la première question que je ferai, c'est comment ça se fait qu'un immonde scénariste qui est plutôt habitué à des grivoiseries absolument ignobles et déhanchées, style Womok, Ragnarok ou encore la rubrique scientifique, soit tout d'un coup lancé dans une œuvre où on ne rigole pas?
Alors déjà, je suis pas d'accord. Je trouve que le scénario est très très drôle. Achetez-le. Et non, le vœu de Marc, c'est un album qui a une histoire très particulière en fait. C'est un album qui date de 1999 en fait. Où on était Lucie, Nicolas et moi dans la même école aux arts décoratifs de Strasbourg. Et le vœu de Marc, c'était un scénario commun avec Nicolas pour notre projet de diplôme. Donc c'était un scénario qui moi me faisait beaucoup rire. Donc je suis très déçu que vous l'ayez pas trouvé drôle. Et normalement, Nicolas devait le dessiner, mais Nicolas est quelqu'un de très occupé, un grand voyageur, donc il est parti vivre un an en Inde, après il est parti aux États-Unis, là maintenant il est en Afghanistan en train de reconstruire le pays. Le pays n'est pas sorti de l'auberge. Et donc le scénario est passé un peu de main en main. On l'a proposé à notre ami Renaud, qui est allé le démarcher chez Delcourt et qui est ressorti avec un contrat, mais pas pour le vœu de Marc, pour l'album qui vient de sortir, Valamont. Donc c'est Lucie qui s'y est collée. Elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé le scénario. Non, c'est simplement que j'avais pas pensé à proposer à Lucie, c'est vrai. Et Lucie m'a dit, mais moi je veux bien le faire. Et ça m'a paru tellement évident que je m'en suis voulu de pas y avoir pensé avant.
Lucie, ça fait quoi de passer pour le dernier choix?
J'adore.
Pourquoi finalement le trait de Lucie s'accorde bien finalement à cette histoire, puisque toi-même t'y as pas pensé du coup? Tu as pensé à inconsciemment ou il y a quelque chose?
En fait, ce qui m'a tout de suite séduit dans l'idée que ce soit Lucie qui le fasse, c'est que on avait un problème pour le public visé dans cet album. C'est-à-dire que c'est un livre qui est clairement pour un public assez âgé, je dirais ado, adulte. Et par contre, l'univers abordé, celui des contes de fées et celui de la cour d'école, renvoyait complètement à un album jeunesse. Si je l'avais dessiné moi qui suis connoté auteur jeunesse, ça aurait fait un album jeunesse et on se serait trompé de public. Et donc le dessin de Lucie étant beaucoup plus artiste, beaucoup plus travaillé, gratté, ça nous rapprochait plus de notre public visé, je trouve, que ça nous rapprochait et ça rajoutait une touche de noirceur à l'album puisque le propos est quand même parfois assez noir.
Lucie, toi qui participes au collectif Chococruid, est-ce que toi tu penses plutôt que ça serait un album jeunesse?
Je ne sais pas. Je pense que j'ai un petit peu de mal quand des enfants de 8 ans arrivent et me font un grand sourire. Je peux avoir une dédicace? Je dis, oh, le pauvre petit. Je peux pas lui faire ça. Excusez-moi, madame, vous l'avez ouvert? Et une fois que la maman l'a ouvert, ou elle le prend pour elle, ou elle le repose gentiment. Mais, le problème, c'est surtout, à mon avis, c'est pas le trait, c'est les couleurs acidulées qu'on a utilisé, qui sont très flash et qui renvoient du coup encore un peu à l'enfance et on se retrouve quand même un tout petit peu dans le décalage. Mais c'est pas désagréable d'être décalé.
Il y a ce concept qui est assez intéressant, donc c'est ce génie de la lampe et finalement il y a le piège du vœu qui veut bien vous accorder. C'était une idée sur laquelle on tournait autour depuis un bail ou de décliner plusieurs fois justement qui ferait quoi de ce vœu.
Alors l'idée du génie dans la lampe, qui est une excellente idée, elle est de moi. En fait, quand on a commencé à écrire le scénario avec Nicolas, on a procédé d'une façon complètement barbare et pas du tout cohérente ni logique. C'est-à-dire qu'on avait l'idée de départ qui était d'un gamin omnipotent et à chaque fois qu'il faisait un vœu, un lutin apparaissait. Et c'est Nicolas qui m'a proposé cette idée qui sort des tréfonds de son cerveau que je ne voudrais pas explorer. Et je ne savais pas pourquoi. Il était incapable de me dire pourquoi ce gamin aurait ce pouvoir d'exaucer tous ses vœux. Et donc, il m'a donné plein de scènes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. C'est qu'il pensait à une scène, il la dessinait en storyboard. Et donc, il m'a passé comme ça l'essentiel de l'album, mais sans aucun fil conducteur. C'est-à-dire, il rajoutait à chaque fois de nouveaux personnages qu'il n'avait jamais exploités avant. Donc, le personnage de Marc, par exemple, apparaissait dans une scène et après n'apparaissait plus du tout, était remplacé par un autre personnage. Il faisait intervenir des parents qu'on n'avait jamais vus avant. Et donc, moi, mon rôle, en fait, ça a été de jouer à Tetris avec toutes ces scènes pour en faire des lignes. Et donc de trouver la ligne directrice, donc j'ai pris l'histoire du génie dans la lampe parce que pour moi ça ramenait complètement à ça, c'est-à-dire la bénédiction du vœu qui s'avère être une malédiction et donc pour moi ça ramenait complètement à l'histoire du génie dans la lampe où toutes ces histoires sont toujours les mêmes, c'est-à-dire on croit que c'est super et en fait on se fait avoir.
Non, moi j'avais une question par rapport au génie puisque moi j'ai vu aussi le vœu de Simon. En fait on se met à la place du génie, on se dit s'il y a quelqu'un qui me faisait le vœu, comment je pourrais l'entuber en lui montrant le côté négatif de son vœu. C'était aussi un côté joueur, on peut le décliner plein de fois.
On va le décliner plein de fois.
Pour moi le génie n'était même pas méchant. En fait il explique, si tu relis les deux albums, il explique assez clairement à chaque fois et à Marc et à Simon dans le suivant les dangers de ce qu'il demande. Il leur explique, mais vous savez, les vœux, c'est pas n'importe quoi, ça va pas changer la face du monde, c'est bon, calmez-vous, demandez un truc raisonnable. Et c'est eux qui, à chaque fois, font les malins, quoi. Donc pour moi, c'était simplement des gens qui demandent un pouvoir trop grand pour eux et qui du coup sont dépassés. Mais le génie, pour moi, n'était pas quelqu'un de mauvais.
Lucie, est-ce que c'est intéressant de travailler sur ce côté univers enfantin avec cette vision complètement noire et avec des enfants qui sont montrés tels qu'ils sont, c'est-à-dire absolument ignobles?
Ils sont pas ignobles, ils sont très nature. Mais
enfin, quand même, ils sont méchants, ils y vont sec.
Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé en banlieue parisienne, hein. Mais des fois, c'est pas hyper loin. Enfin, bon, on va pas revenir là-dessus, mais non, c'est intéressant de travailler sur le scénario de quelqu'un. Ça, je l'avais jamais testé. Et c'est super de s'investir d'un univers quand il est assez proche. Je pense que ça doit être encore plus difficile quand il est loin, mais là, je me sentais comme un poisson dans l'eau.
Combien il y a d'albums qui sont prévus autour de cette histoire? Il n'y en aura que deux?
Alors, on n'avait pas vraiment d'idée précise. Le premier album, on l'avait fait parce que c'était un one-shot, c'était quelque chose qu'on voulait faire pour nous, c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps, on était très contents de le sortir enfin. Ensuite, Vincent Henry de la boîte à bulles nous a proposé de continuer, donc Lucie avait une histoire qui lui tenait à cœur aussi, donc je l'ai réadaptée aussi en scénario d'après son histoire qu'elle avait écrite. Donc Le Vœu de Simon, c'est une histoire de Lucie que j'ai juste adaptée pour la faire tenir dans l'univers du Vœu de Marc.
C'était une histoire où le génie, pardon, avait pas sa place. C'était une histoire qui existait, un petit peu comme Nicolas. Je lui ai donné une histoire de 21 planches, mais il y avait pas le génie. Et il l'a complètement redécalée pour la faire entrer dans une suite logique.
Voilà. Et pour les suites prévues, on compte sur Nicolas, c'est-à-dire qu'il doit bientôt rentrer d'Afghanistan. On avait commencé à écrire une suite, en fait, au Vœu de Marc, parce que Nicolas n'avait pas pu s'arrêter, donc il avait continué à écrire des scènes qui devaient être dans l'album du Vœu de Marc et qui n'y ont pas été, et qu'on voulait adapter pour une autre histoire. Si Nicolas rentre et travaille dessus, on va terminer ce scénario. Et sinon, moi j'aimerais bien écrire une suite, effectivement, donc j'en parlerai avec Lucie, et puis j'avais plusieurs idées pour éventuellement... Enfin, on verra. Mais vu que la première histoire était Nicolas et je l'ai adapté, la deuxième histoire c'était de Lucie et je l'ai adapté, j'aimerais bien que la troisième histoire soit de moi, ou si Nicolas revient, qu'on finisse celle qu'on avait commencée.
D'accord. La boîte à bulles, pourquoi eux comme éditeur? Est-ce que c'était plus intéressant de le faire via un label indépendant, ou finalement c'est un pis-aller tout comme la dessinatrice?
Alors déjà, la dessinatrice n'est pas un pis-aller. Si tu veux pas que je fasse bouffer ton micro, il va falloir me retirer ça de l'interview. Non mais, et puisqu'on en est très sincère, alors la boîte à bulles, honnêtement, c'était en toute honnêteté, c'est on a fait tous les éditeurs, quoi. On a démarché énormément ces deux.
Si, ils nous ont tous dit c'est un ovni votre truc.
La boîte à bulles, c'est les seuls que ça a pas effrayé. Ils nous ont laissé une liberté totale tout en étant très attentifs au contenu. C'est un album où on a eu vraiment un soutien technique et au niveau de l'objet, enfin, que je trouve très beau, une très belle réalisation. Donc voilà, Vincent Henry a été super, il nous a laissé faire ce qu'on voulait. Donc nous on demandait pas un gros éditeur, on s'en fout, quoi. On voulait juste faire notre histoire. On est très content qu'elle soit sortie à la boîte à bulles vu le rendu final de l'album.
Lucie Albon, Boulet, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Ouais, non, il y a quelques répliques qu'il faudra que je te fasse ravaler avant de te dire merci.
Attends, il y a la deuxième interview.
Et cette deuxième interview avec Boulet, on la fera pour une spéciale blog en bande dessinée, puisqu'il tient un site personnel qui est très très suivi, justement parce qu'il fait l'effort de faire des planches absolument superbes et très rapides. Grâce justement à ce blog BD, il a appris à dessiner très rapidement. Donc le site de son blog, c'est bulletcorp.com. Le site de Lucie Albon, qui est pas non plus dénudé d'intérêt, c'est luciealbon.net. Si vous voulez savoir, cherchez sur internet les 24 heures de la bande dessinée. Ça a eu lieu à Angoulême en janvier dernier. Boulet y a participé, ainsi que Lucie. On voit justement le graphisme de Boulet tel qu'on ne le voit pas forcément dans les bandes dessinées qu'il édite chez Glénat, où il a acquis justement cette rapidité du trait grâce notamment à l'exercice quotidien, grâce à son blog et tout ça. C'est vraiment quelque chose à voir. Et à la différence de Lewis Trondheim, on a accès aux précédentes pages et on peut commenter. Donc c'est assez intéressant. Il est midi et 30 minutes pile poil sur la poubelle des radios. annoncé dans 30 secondes. Bon, en tout cas, c'est le supplément week-end. On revient avec les sorties bande dessinée d'ici 2-3 minutes. Mais là, en attendant, eh ben, on a un petit peu de publicité, comme d'hab.
Carnage à la Posia. Pardon, au complexe Omega. Sept spots de la drum and bass au hardcore en passant par toutes sortes de techno. Manuel Malin en tête d'affiche et une cinquantaine de DJ à suivre. Xindamix, tous les Vandal Records, Asystématique, De Frey et tous les autres. Alors événement, n'oublie pas la Coalition of Sound System Chapter 2. C'est à l'Omega, lundi 7 mai.
Ils étaient 12, et désormais ils ne sont plus que 2, et c'est le dernier tour.
Moi j'ai trouvé qu'il était très impliqué, il y avait une très jolie musicalité, donc tu mérites un bleu.
Ce qui me gêne, c'est que t'as pas construit ton propre univers.
Tu veux le savoir, on vote pour toi parce que t'es mignon.
Lui il explose tous les styles, il explose toutes les limites.
Merci.
Ils ont fait leur show à la télé, sur scène, en radio, dans les journaux. Il y a eu des mots, des déceptions et de l'enthousiasme.
Qui vous avez décidé de conserver et quel candidat va devoir nous quitter?
Leurs fans les ont soutenus, ils ont éliminé tous les concurrents potentiels. Aujourd'hui et sans surprise, les voici en finale. Maintenant, vous avez le choix, vous décidez de l'avenir. Qui va l'emporter après une saison acharnée? Qui va prendre la couronne suprême et oser appliquer son programme tel qu'il a promis? Attention, ce n'est pas une fiction, le vote n'est pas truqué. Vous allez lire qui, pendant 5 années, sera le nouveau tsar. Alors demain, votez. En plus, c'est gratuit, il n'y a pas de SMS+. Plus. Et puis, le scrutin est ouvert jusqu'à 20h sur la ville, selon votre inscription sur liste électorale. Comment ça? Je l'ai déjà fait il y a 2 semaines, ce gag. Je les recycle si je veux, monsieur. Je suis un militant de ce côté-là. Vive le recyclage. Il y a les radios qui le font beaucoup plus que nous, hein. Tu m'excuses. Allez, on va commencer les sorties avec l'éditeur suisse Paquet, qui fête ses 10 ans et qui ose un pari audacieux. Éditer des albums cartonnés, couleurs, 36 pages, avec des histoires originales pour un prix moitié moindre que la plupart des concurrents, 5 euros, soit le prix d'un manga. Ça fait à peu près, faut penser que c'est pratiquement 2 fois moins cher qu'un album chez Dupuis pour les 3/4 de la pagination. Histoire de relancer de nouveaux auteurs, d'amener un nouveau public et de nous faire découvrir l'originalité de ses productions. Alors on va commencer avec Étienne Willem au scénario et Kira au dessin, le cercueil des souvenirs. Indrani, c'est une histoire complète, c'est dans cette nouvelle collection qui s'appelle T-Cap, chez Paquet. Et ça se passe dans les Indes britanniques au début du XXe siècle. Dans la riche demeure coloniale de Sir Dravot, l'archéologiste John Blutt a été assassiné par son collègue Renfeld. Ce dernier a commis son horrible méfait pour s'emparer d'un trésor national mythique, l'épée de Kali. Et coup de chance pour le malfaisant, c'est une jeune indienne qui s'était faufilée pour quelques larcins dans le domaine qui va porter à sa place le chapeau. La belle Indrani au grand cœur se retrouve donc à dénicher au plus vite cet artefact de légende, alors qu'elle a sur son dos l'armée coloniale. Car il est dit que celui qui trouve l'épée que la déesse Kali a trempée dans le sang de Radha Bija pourrait invoquer les pires démons. Comme si l'Inde n'avait pas suffisamment d'anglais sur son sol. Côté humoristique et très vil, une aventure épique qui sent bon le curry. Arthur Laperta, lui, nous sort un premier tome sur 3 de la tête de Wilson l'Enragé, toujours dans la même collection. Jardinier du gouverneur de Jamaïque, Jacques Lafleur a eu le tort de se faire prendre en otage par des pirates. La générosité du gouverneur n'ayant légal que son souci du bien-être des hommes, le jardinier s'en trouve planté sur une île puisque la rançon n'a jamais été versée. Sur ce petit coin de paradis dans les Caraïbes, le jeune homme ne se trouvait point seul puisque le terrible pirate Wilson dit l'enragé pour ses exploits peu recommandables. Plus exactement, la tête de Wilson. C'est tout ce qu'il en reste suite à un mystérieux tour de magie. Très proche du style de Sfar, servi par un dessin accessible et surtout très drôle, c'est un petit triptyque rigolo et rythmé. Les érudits des frères de la côte y chercheront les nombreuses allusions qui parsèment ce livre, mais ce bouquin se lit aussi bien d'un seul œil.
Ah, du rhum et des femmes, gré nom de Dieu!
Les frères de la côte à Frères Joyeux. Frères Joyeux, c'est l'album de Renaud Drillise, toujours dans la collection TCAP. Frères Joyeux rentrait de la guerre et sourire aux lèvres parcourait les vastes sentiers de la vie pour retourner dans son foyer. Pas très riche sinon que de sa bonne humeur, la main toujours sur le cœur, il n'eut bientôt plus qu'un quignon de pain et une chope de bière à partager avec un mendiant. Les deux compagnons d'un soir décidèrent de prendre la route ensemble et de partager leurs hormones. Mais Frère Joyeux, ayant barboté par gourmandise le cœur d'un agneau, son compagnon décide de lui faire un drôle de cadeau d'adieu, un sortilège sur sa besace. C'est d'après un conte des frères Grimm, c'est une histoire tendre, sans réel gentil ni méchant et graphiquement très originale, qui ira parfaitement pour les petits enfants. Frère Joyeux de Renaud Drill, et auparavant, j'ai parlé de Étienne William et Kera pour le cercueil des souvenirs Indrani, et Arthur Laperta, la tête de Wilson l'Enragé, premier tome sur 3, La Fleur. Cela vient donc de sortir dans la collection TCAP chez Paquet, une collection à prix réduit justement pour découvrir de nouveaux auteurs. La semaine prochaine, on va parler en public de bandes dessinées d'origine asiatique. Cette fois-ci, on va parler de bandes dessinées d'origine américaine, de pervers en cap, maladement, mentalement, tourné vers l'application d'une justice expéditive. Je vous jure qu'il n'y a aucun a priori politique dans ce que je dis là, non, rien. Ed Brubaker, Greg Rucka au scénario, Michael Lang et Gregor Scott, excusez-moi, au dessin. Gotham Central, le tome 2 vient de sortir, il s'appelle Affaires non classées, c'est dans la collection DC Heroes chez Panini Comics. Et Gotham, c'est une très grande ville américaine, une immense ville où la ville a fort à faire. Imaginez la vie quotidienne de ces inspecteurs de police, en dehors des interventions de Batman, avec un minimum de présence des super méchants, vous aurez l'ambiance bien glauque et trempée des New York sections criminelles. Gotham Central, c'est la vie quotidienne limiée du GCPD, Gotham City Police Department, un travail rude dans le respect de la loi, avec des budgets assez rikiki, et une hiérarchie assez lourde et pesante, et la rue, l'ambiance de la rue qui se dégrade. Justement, l'atmosphère est lourde, le trait des visages assez émotif, mais surtout les personnages ont tous un vécu, des regrets, des obligations. Entre la mort suspecte de deux femmes travaillant dans la même entreprise, et le déterrage d'une vieille histoire d'assassinat collectif d'une équipe lycéenne de baseball, on sent bien que le travail des inspecteurs est loin d'être facile, qui joue aussi bien de la patience que du sang-froid, et sans gadget, sans entraînement de commando, sans méthode expéditive. Faire la lumière sur une affaire et en punir les coupables prend un temps infiniment long par rapport à une virée batmanienne. Ces flics ne sont que des hommes et ils ont leur propre humour, ils ont leur propre remords. C'est de la série adulte, mûre, sans fioritures et qui donne une réelle épaisseur à une ville liée à un justicier en cap. Si on gommait les apparitions des vilains, l'histoire parlerait d'égal à égal avec ses concurrents télévisuels, justement. Ed Brubaker, Greg Rucka, Michael Lark et Greg Scott sont derrière Gotham Central. Le deuxième tome s'appelle Affaires non classées. C'est chez DC Heroes, une collection de Panini Comics. Tu avais lu le premier tome, non?
Non, je me rappelle pas bien. Non, non, ça me. Non, non, non. Mais bon, à feuilleter comme ça le deuxième, quoi. Je remarque quand même que le graphisme me gêne un petit peu, quoi. Enfin bon, c'est. J'aime pas trop, quoi. Ce genre de graphisme.
Ouais, alors là. Si c'est pas flashy, si c'est pas des couleurs à la Photoshop, non, avec non, des cadrages bon, manière c'est, manga, c'est ça?
Non, 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 non. C'est. Je sais pas, le. Le style me déplaît, enfin, c'est peut-être l'absence de style, ou je sais pas, enfin, je sais pas.
Pourtant, je peux t'assurer que l'histoire, elle est. Pff.
Elle est dans. Mais par contre, celui-là, là.
Celui-là, tu l'attends. The New Avengers, ce tome 1 s'appelle KO. Brian Michael Bendis au scénario, David Finch au dessin. C'est dans la collection Marvel Deluxe chez Panini Comics et on peut faire péter la disco! Et là, ça va être à mon tour de ne pas être très tendre. Puisque The New Avengers, ben non, ça n'a absolument rien à voir avec chapeau melon et bottes de cuir. C'est beaucoup moins classieux et stylé, c'est plus américain. Les Avengers, ou Vengeurs en version française, c'est l'une des plus anciennes associations de super-héros de l'écurie Marvel. Le pendant chez DC, c'est la Justice League of America. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la JLA, regardez ce soir Smallville sur M6 ou demain matin F3X sur France 3. Ça vous coûtera moins cher et puis ça vous obligera à vous lever tôt pour aller voter.
Ouais, il y avait même les Vengeurs géographiques. Hein. D'abord, c'est les Vengeurs de la côte Est et ensuite, il y avait les Vengeurs à la côte Ouest. Quoi.
Ouais, ça a pas duré très longtemps. Et puis, il y a eu les Vengeurs de la région des lacs et là, justement, suite à cette série, et les Vengeurs pour ados. On va y venir. Et on peut dire que l'équipe des Vengeurs, eh ben, elle en a vécu, car cette association de bienfaiteurs a été créée par Stan Lee et Jack Kirby, s'il vous plaît, sur les fonds baptismaux en 1963. C'est tellement vénérable que cette union a vu passer pratiquement tous les héros de l'écurie Marvel. On compte en vrac Miss Hulk, Captain America, Marvel Man, Spider-Man, les 4 Fantastiques, quelques X-Men, bref, il y en a un stock, quoi. Le problème, c'est que c'est un titre encore plus baroque que n'importe quel autre et qu'il comporte des héros qui ont très mal vieilli, comme par exemple Captain America ou encore la Guêpe, une femme dont le pouvoir est d'être toute petite. Et génial comme pouvoir. Marvel avait tenté en 1994 de faire un électrochoc en butant tout le monde et en reformant l'équipe à zéro. Rob Liefeld avait été chargé de cette tâche titanesque et a échoué. 10 ans plus tard, Marvel retente le coup avec Brian Michael Bendis, scénariste aux commandes qui s'est plutôt très bien illustré, avec exactement la même recette. Dans Avengers Disassembled, eh ben, il manque de tuer tout le monde. Pas mal de super-héros d'ailleurs se retrouvent définitivement morts. D'autres sont complètement désavoués et d'ailleurs risquent de ne pas s'en relever. New Avengers ne garde qu'un casting plus limité, plus actuel et théoriquement plus cohérent. Cet album reprend l'année complète de ce chaos, enrichi de divers bonus, comme une interview du scénariste et quelques regards de derrière l'épaule du dessinateur. L'histoire. Iron Man, financeur et leader des Avengers, ministre de la Défense des États-Unis, se désavoue complètement devant l'Assemblée Générale de l'ONU, ce qui mène celle-ci à rompre toute relation avec le groupe de super-héros. Au même moment, le QG de ces derniers à New York est violemment attaqué par différents héros du passé, puis submergé par des extraterrestres. En clair, c'est la Lali, et non, ça ne sent pas les lilas, mais ça sent plutôt, les pissenlits par la racine. La pire heure possible pour les Vengeurs qui se font massacrer par tous leurs cauchemars réunis. C'est un peu gros, mais efficace. J'ai rarement vu un film de gros bras finalement faire dans la finesse. Hein. L'équipe est totalement dissoute depuis plusieurs mois quand la prison de très haute sécurité du S.H.I.E.L.D. le Child subit une avarie et que les prisonniers s'en profitent pour se faire la belle. Pas n'importe qui, les pires super-vilains jamais réunis sur une seule planche de comics. Comme par hasard, il faudrait vraiment que les Avengers se remettent ensemble pour faire le ménage. Bon. Alors, pas de suspense. Composition des New Avengers. Iron Man, alias Tony Stark, capitaine de l'équipe. Spider-Woman, Jessica Drew, agence du S.H.I.E.L.D. Captain America, toujours le premier du nom, Spider-Man, Luke Cage, Sentry, sortie de tôle, et Wolverine en location-vente des X-Men. Et toute cette fine équipe et se rassemble au cri de « Vengeurs, rassemblement !» Oubliez toute cohérence. Moi, je trouve très fort que Bendis arrive à faire croire à un Captain America jeune, beau et fort, alors qu'il l'avait lui-même décrit comme cinquantenaire, plus très folichon dans le comics Alias. Rien à voir avec la série télévisée. Comics Alias, c'était une série en 5 tomes qui était justement très intéressante de ce côté-là. Et Alias, c'est justement un des personnages anciens d'Avengers. Bref, Brian Michael Bendis et David Finch, The New Avengers, tome 1, KO. C'est dans la collection Marvel Deluxe chez Panini Comics. Ça fait bizarre de voir, par exemple, Magneto faire équipe avec les gentils, et d'ailleurs, ses enfants être appelés, mais à l'époque, carrément par Jack Kirby et Stan Lee. Hein, c'est rappelé, d'ailleurs, dans le bouquin. Et puis, voilà. Ça vient de sortir dans la collection Marvel Deluxe, édition plutôt luxueuse chez Panini Comics. C'était sorti aux États-Unis en 2005. Du sport, commentaire technique peut-être sur cette action?
Non, aucun. Je vais le prendre et puis je te dirai après.
D'accord, donc pas de ralenti. Okay,
Non, mais c'est vrai que pour les bonus, hein, déjà, c'est bien. C'est la collection Deluxe, couverture cartonnée. Il y a je sais pas combien de pages. Et puis derrière, bon bah, il y a toujours le truc avec les couvertures originelles. Hein, des comics de l'époque en grandeur nature, l'interview de Bendis, l'interview de David Finch aussi un petit peu quoi, avec des notations sur les scripts, enfin des petits trucs vraiment très très sympas quoi. Non, c'est de toute façon quoi, c'est du bon bouquin ça, y a pas de problème.
D'accord. On a fini avec la bande dessinée. On fait à 12h46. Ouf, oui, du sport, sinon on commençait à sortir la hache.
Ah, t'as vu, il y a un décalage d'une minute par rapport, d'une pendule par rapport à l'autre.
D'accord, et ben pendant que je pense 07 avec Sophie Barker à la chanson In the Waiting Line, on va les remettre à l'heure. Le supplément week-end revient après ça.
I'm
Vas-y, continue.
Ah, non, je disais, puisque je passais tout à l'heure le truc, je disais que ils ont. Heureusement qu'il y a Aerodif, parce que moi je regardais des trucs beaucoup plus importants ailleurs. Il y avait le slammer fou, le human beatbox absolument monstrueux là, qui a fait un show mais impressionnant. Je sais pas si t'as vu, c'était énorme.
Non.
C'était pas mal. Du sport.
Yes, avec pas grand chose. Hein. Bon, il y a quand même un petit peu d'inédit. Ça va, hein, mais enfin, on va dire que c'est presque tout venant quoi. Bon, on va quand même pas faire la fine bouche. Avec toujours l'iPhone Mars, profitez-en, je vous assure, hein, vraiment, ça vaut vraiment le coup. C'est diffusé sur 13e rue tous les mardis à 20h50 hein, pour les épisodes inédits. Alors là, le calcul est vite fait, hein, de la saison 2, il y a également 8 épisodes. Ce qui va faire que les deux qu'on va voir mardi prochain, c'est après, il y a encore un mardi et puis ce sera terminé.
Ce sera fini, ouais.
Plié quoi, donc merde, hein, faites un effort. Non, parce qu'en plus, quoi, c'est...
Non, mais bravo aux programmateurs, là. C'est franchement débile de passer par paquet 2 systématiquement. Quoi.
Eh ouais, mais bon, c'est le format à la française, ça.
Ouais,
c'est le format à la française. Faut s'y faire, maintenant, hein, avec donc deux épisodes, Kidnapping et Héroïne, toujours situé à Manchester, avec, au niveau bande musicale, dans le premier épisode, on aura Hawkwind avec You Shouldn't Do That, Roxy Music avec Just Like You et Electric Light Orchestra avec 10538 ouverture. Dans l'épisode Héroïne, là, c'est un petit peu plus fourni au niveau musique. Il y aura Cozy Powell avec Dance With The Devil, Atomic Rooster, ouais, ils les aiment bien quand même, Atomic Rooster, hein. Et ils passent plusieurs fois comme ça, il y a Bowie qu'ils aiment bien, il y a Sweet qu'ils aiment bien, Atomic Rooster également.
Bon, peut-être que les droits étaient moins chers.
Non, mais c'est parce que c'est vraiment l'époque, hein, de toute façon, avec Breathless, Alan Dashankar avec Snowflower, Elton John, eux aussi, ils aiment bien, avec Rocketman, celui-là, il n'est pas encore passé, et Audience. Alors là, j'essaie de savoir ce que c'est, mais alors là, j'ai un trou, quoi, et pourtant, ils en ont déjà passé 3. I Had a Dream, c'est le titre du morceau. Il y a également Shocking Blue, célèbre pour Venus, Venus quoi, le morceau. Et là, c'est pas Venus, mais ce sera Hot Sand. On va s'attarder parce que je pense que la dernière fois, il y a 15 jours, je voulais faire un topo complet sur les acteurs principaux. Et je crois que j'avais carrément zappé, j'avais préparé ma truc et tout. Et dans mon discours et tout, je me suis laissé aller. Et j'en ai pas parlé du tout, j'ai zappé complet. Alors donc, je l'ai refait pas pour... Philippe Glenister qui joue le rôle du commissaire principal, hein, c'est-à-dire le patron de Sam Tyler. C'est con parce que bon, c'est assez intéressant aussi. Il faut savoir que c'est le frangin d'un autre acteur, Robert Glenister, qui est vachement plus connu dans le monde des acteurs anglais et dont le papa était déjà réalisateur pour la BBC dans les années 50 et 60. Hein, donc
Yes.
C'est de famille. Hein. Mais et en plus, Philippe Glenister, on le retrouve dans State of Play. Hein, dans laquelle joue également John Sim. Alors c'est assez rigolo parce que là également dans State of Play il joue le rôle d'un flic et la gueule est pas aussi travaillée, aussi triturée on va dire que dans Life on Mars. Bon, enfin c'est pas mal quand même, hein, il est bien quoi. Alors John Sim lui il a fait différents trucs, hein, pour la BBC. On va pas dire que c'est un acteur de la BBC, mais enfin bon, il a fait une bonne partie de sa carrière quand même avec donc Life on Mars qui est diffusé en ce moment, State of Play aussi, j'en parlerai un petit peu plus tard, The Lakes, Crime and Punishment, c'est-à-dire Crime et Châtiment, hein, il joue le rôle principal, enfin le rôle de Raskolnikov. On le verra dans Doctor Who, la saison actuelle, 2007, où il joue dans deux épisodes le rôle de Monsieur Saxon. On l'a vu apparaître au cinéma également dans le film 24 Hour Party People, tu sais, le film sur New Order. Et lui, il joue le rôle de Bernard Sumner, hein, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire le chanteur de New Order. Hein, et il interprète d'ailleurs un morceau qu'il a vraiment chanté, parce que bon, il est aussi un petit peu musicien, il joue de la basse, hein, il joue assez bien de la basse. Et il a son propre groupe.
Ah bah, comme le chanteur de New Order, justement.
il a son propre groupe qui s'appelle Magic Alex. Il a même participé à un album de Ian McCulloch, le chanteur de Echo and the Money Man. Il a également apparu dans un autre registre, parce que là, les trucs que j'ai cités, bon, c'est un registre un petit peu plus dramatique, on va dire, mais dans la comédie, hein, dans le registre comique, il est pas mal non plus, vu qu'il a fait plusieurs apparitions dans All Star Comedy Show. Il a fait également un best-of de Ali G, dans lequel il apparaît, Meet Ricky Gervais, enfin, que des émissions comiques, mais super, enfin, super connues. De l'autre côté du channel, John Sim, il vit depuis très très longtemps avec la même nana, hein, une actrice également qui s'appelle Kate McGowan, et ils ont un fils qui est né en août 2001, Ryan. Voilà, John Sim donc, qui est l'acteur qui interprète le rôle principal dans Life on Mars, le rôle du détective Sam Tyler. Donc mardi à 20h50, les deux épisodes inédits, Kidnapping et Héroïne, et la rediff des épisodes de mardi dernier, ça se fait dimanche soir, hein, demain soir, donc à partir de 22h30. Un petit peu de musique, allez.
Supplément week-end de Radio Éphémère du Sport nous a repassé son disque favori, donc Sweet avec Hellraiser dans le supplément week-end, et puis voilà, hein, ça tourne toujours autant. Il est quasiment 13h d'ailleurs, hein, je pense.
Voilà. Il faut dire que si tu regardes les deux épisodes de Life on Mars, donc la rediff de mardi dernier, si tu regardes demain soir à partir de 22h30, donc sur 13e rue, eh bien je crois que c'est dans le premier, tendras l'oreille, il y aura un petit moment, il passe un extrait de ce morceau, donc dans l'un des deux épisodes de demain soir de Life on Mars. On parle d'autre chose à présent, un petit topo sur une série qui s'est ramassée lamentablement, vu que ça avait tout pour être excusez-moi, quelque chose de très intéressant et quelque chose qui aurait pu aller très très loin dans le temps, on va dire, mais ça s'est ramassé lamentablement au bout de 3 saisons. Ça a quand même duré 3 saisons, surtout sur le nom des différents initiateurs, on va dire. Il s'agit de cette série, tu dois connaître, Sequest DSV.
Oh non, pas le truc oh punaise. Alors ça, rien que pour ça, je ne sais pas, mais c'est le Nicolas Hulot scénarisé fait du 20 milieux sous les mers avec sa combinaison rouge jaune.
Il l'a dit, inspiré librement du 20 milieux sous les mers de Jules Verne, hein, dont Steven Spielberg est un grand admirateur.
Il a soutenu à bout de bras, hein, voilà, parce que c'est vrai qu'elle avait pas franchement très bien marché à l'époque.
Alors avec un pitch improbable, donc un super vaisseau sous-marin hyper perfectionné. Enfin, tu vois, comme dans Star Trek dans l'espace, sauf que ça se passe sous la mer. Genre, quoi, tu vois, chargé de l'ordre des océans intergalactiques, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est un petit peu le thème de ce truc. C'est sous-titré Police des mers en français. Et bon, ça a été créé, Spielberg avec quelques autres fait figure de producteur et d'exécutif pour cette saison, alors que ça a été créé par un mec qui s'appelle Rockne S. O'Bannon, et j'ai pas pu rechercher ce qu'il avait fait. Pourtant, il a fait d'autres. Une autre série vachement plus récente et qui marche pas mal. Il s'était fait déjà remarquer dans les années 80, fin des années 80 pour ses différents scénarii dans la série La Cinquième Dimension. Pas n'importe qui quand même, c'est vrai que sur la mesure des épisodes, ça s'est étiolé. Les sujets étaient d'une platitude comme c'est pas permis.
Je crois dire une bêtise, mais après, je crois qu'on l'a retrouvé dans l'équipe de Babylon 5.
Il me semble, ouais, il a fait d'autres trucs aussi. Ah. Quoi. Je me demande s'il n'est pas dans Galactica aussi, tu vois, un truc comme ça. Quoi. Mais j'ai pas pu vérifier là ce matin, désolé.
Ah ouais.
Donc, ça a été produit pour la NBC, hein, ça a duré 3 saisons, de 93 à 95, 55 épisodes au total, mais il faut dire que Roy Scheider, tellement il allait éboulé, il était écœuré, il a tourné que quelques épisode de la saison 3, puis ensuite s'est barré parce que c'était vraiment trop lamentable. Il y a quand même un casting béton, hein, outre Roy Scheider, donc qui joue le rôle du capitaine Burcher, je crois, le capitaine du sous-marin. Il y a également, un casting 3 étoiles: Stéphanie Beecham, Stacy Haiduk, Ted Remy, le frère de Sam. Les deux frangins de Louise, Michael et Peter, Michael Ironside, et je passe les meilleurs, hein, parce que là je cite les plus connus, on va dire,
sans compter les featuring qui étaient,
dire que
qui étaient pas
si
mal.
Vous intéressez aux belles images comme ça, au côté un petit peu psychotonique de la chose, ça peut être intéressant, ça peut être rigolo, laissez tomber les histoires, épisodes,
à l'époque, il y avait un usage absolument énorme d'images de synthèse. Ça avait pas mal fait la pub pour une boîte qui essayait de se mettre face à Silicon Graphics à l'époque, qui était New Tech. C'était des Amiga un peu surcustomisés et qu'on a retrouvé par la suite justement dans Babylon 5, dans Robocop la série. Et justement, il y avait le nom de Spielberg qui cautionnait la qualité des effets spéciaux.
Il y a même un dauphin, il y a un dauphin aussi, hein, qui s'appelle Darwin en plus. Enfin bon, voilà, c'est Sequest, et bon, on peut quand même remercier la chaîne Sci-Fi de nous reproposer la diffusion de cette série dans son intégrale. Donc
c'était
à
passé
partir
à l'époque
du pilote,
le samedi sur la Une, il me semble.
Dans l'après-midi. À partir de lundi prochain, dans l'après-midi, tous les jours de la semaine, de 15h à 16h40, deux épisodes à la suite, dont le pilote qui fait 90 minutes, hein, c'est un épisode double, enfin, c'est un vrai téléfilm, en fait, qui sera diffusé, donc, lundi prochain, à partir de 15h. Et ensuite, tous les autres jours de la semaine, toute la semaine, du lundi au vendredi, de 15h à 16h40. Sequest DSV. Sinon, on a quand même trois épisodes inédits de CSI Manhattan. Mac Taylor ce soir, Mac Taylor. À partir de 20h50, la preuve par 3, dernière mission qui sont des moins 10 et la mort en jeu qui est un moins 12. Et là on comprend que il passe ça le soir, hein, assez tard quand même. Il s'emmerde pas quand même à nous passer des New York Unité Spéciale le dimanche après-midi. TF1, de toute façon, c'est pas les scrupules qui vont les étrangler. Hein.
Sérieusement recoupé, tu sais quel est le point.
Ouais, mais bon.
Tu sais quel est mon jeu dans CSI New York? Truc idiot. Je sais pas si vous avez remarqué, mais de toutes les franchises, les experts, c'est la série où il y a le plus de placing. Vous avez des marques, vous avez des produits, et des fois des chansons de groupes qui sont sponsorisées par les majors pour que ça passe, en sonnerie de portable, trucs comme ça. Mais c'est flagrant, c'est peut-être pour ça que c'est la moins bonne.
Ouais.
Ah non, il y a pire, il y a RIS.
Sinon, je parlais de State of Play auparavant, à propos de Life on Mars. C'est l'autre série dans laquelle on peut voir John Sim, donc jouer le rôle d'un journaliste, hein, qui enquête sur la mort de personnages dans le monde politique, hein, ça se passe à Londres, tout ça, en Grande-Bretagne. C'est très très intéressant, hein, c'est, ça se laisse vraiment bien regarder. Alors, si vous avez loupé la première diffusion des trois premiers épisodes, c'est une mini-série en 6 épisodes, alors donc ça fait quand même 3 à la suite, c'est un petit peu dur. Là c'est pareil, Canal Jimmy se fout un petit peu de la gueule des gens, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire, c'est comme ça. Alors la rediff, c'est cet après-midi, hein, des trois premiers épisodes à partir de 15h20 jusqu'à 18h15, alors tu vois, t'as compris. Sinon il y a une autre rediff mercredi prochain de 23h15 jusqu'à 2h du mat, et les trois derniers épisodes sont donc diffusés vendredi prochain à partir de 20h45, donc prime time pour l'épisode 4, 5 et 6 de cette série britannique State of Play. En plus, que tu peux regarder en version originale si tu veux. Enfin bon, c'est nickel, c'est carrément nickel. Dans un registre tout à fait différent, mais je suis tombé dessus un petit peu par hasard, et puis bon, je me suis dit, tiens, j'avais lu quelque chose dessus, et moi, comme j'étais pas client, bah non, quand ça passait l'après-midi, donc forcément... Quand tu travailles, c'est pas évident. C'est une série.
Tu fais une allusion là, moi ou quoi ?
Non, non, pas du tout. Non. C'est une série qui peut être regardable sur AB1, AB1 la chaîne, qui ne fait que dans de la rediff. Et en plus, généralement de programmes maison. Tu as compris de quoi je veux parler ?
Oui, il y a les pour être libre.
Ouais, mais c'est pas dans ce registre-là, c'est dans l'autre registre, justement, c'est l'émission, et c'est les gens qui ont amené ce genre de truc en force sur AB1, puis après sur d'autres chaînes, bien entendu, hein. Je parlais de Dorothée, le Club Dorothée, et à l'intérieur de donc l'émission du Club Dorothée, bon, il y avait plusieurs sketchs, il y avait des chansons, il y avait des diffusions de mangas, de... Hein, Ken le survivant, rappelle-toi tout ça dans Ken, hein, dans Dorothée, quoi.
J'ai touché ton point insensible. Tu vas mourir dans 274
ans. Et ils avaient également fait une petite série, hein, qui s'appelait Pas de pitié pour les croissants. Ouais. Eh bien, AB1 nous propose une diffusion de plusieurs épisodes à la suite, donc de cette série Pas de pitié pour les croissants. On retrouve Dorothée, Jackie, Daniel Potra, hein, ces mecs qui faisaient sport aussi.
Ouais.
Ariane Colatil. Oui. La bande est musclée, enfin bon, que du beau monde, donc.
Et ils sont en procès là-dessus parce qu'il y a Ariane, Corbier, qui eux ne touchent pas de droit comparé à Jackie et à Dorothée, ne touchent pas de droit actuellement sur une rediffusion, contrairement à ce que devait faire AB1. Donc il y a un procès là-dessus entre ABSAT et les acteurs qui en ont fait partie.
Eh ben, avant que ce soit interdit diffusion, profitez-en, donc c'est mardi prochain, 22h40, en plus t'as vu l'horaire, hein, sur AB1, mardi prochain, donc Pas de pitié pour les croissants, ça date de 88.
Ouais, les trentenaires, ils travaillent maintenant.
Ouais, comme ça, c'est l'occasion de les voir, hein, quand même. Star Trek Voyager, saison 7, mon gars, déjà, 1-1-1-1, ça te dit quelque chose, c'est sur Canal Jimmy à partir de mercredi, 20h45, avec le Voyager, avec la première femme, en plus, dans l'univers Star Trek, qui est patronne, qui est capitaine, hein, du vaisseau Voyager, avec Picardo, enfin, toute la bande, quoi. C'est bien, c'est rigolo, donc... C'est à partir de mercredi prochain sur Canal Jimmy, 20h45. Sinon, on y est, ça y est, ouais, j'ai loupé les premiers, mais tu as vu ça, toi, le truc de Vincent Pérez, Paris Enquête Criminelle, TF1, le jeudi à 20h50.
Je pensais que t'allais le regarder.
Nouvelle donne. Bah non, j'ai complètement loupé.
J'étais en train de regarder, j'avais loupé l'épisode d'Eric et j'étais en train de me le repasser au ralenti pour manquer aucun détail.
C'est vrai que être diffusé jeudi en concurrence avec Les Sopranos, ça le fait pas du tout. Mais qui se rassure, Les Sopranos, c'est terminé. A plus, hein. Il va falloir attendre la dernière livraison, donc la livraison finale, hein, de cette saison 6 des Sopranos, un petit peu plus tard dans l'année, peut-être, on espère. Mais en tout cas, on peut se taper Paris Enquête Criminelle, donc la franchise française de Dick Wolf, Law and Order.
Alors quand tu dis franchise, tu peux en parler, parce que le dernier épisode, j'ai juste vu celui-là, c'était la reprise texto d'une histoire qui avait été faite justement dans les New York section criminelle. Sauf que bon, les acteurs jouent différemment et le commissariat fait vraiment très improbable.
Ouais, mais il faut dire que dans Law and Order, c'est pareil, hein, le commissariat, dans toutes les séries, en fait, les commissariats sont vraiment improbables, quoi.
Là, c'est pire que tout.
Je veux dire, y a pas beaucoup de différence en plus entre les différents trucs dans les séries. Donc, Paris Enquête Criminelle, 2 nouveaux épisodes, c'est jeudi prochain sur TF1. Le Serment et Addiction, 3, 4, et le lendemain soir, eh bien, la nouvelle donne proposée par les concurrents du service public avec une nouvelle série inédite, dans, toujours dans cette case fameuse du vendredi soir, hein, qui est dévolue sur France 2, eh bien, aux séries policières, aux séries criminelles et tout ça. Et là, ben, ça va un petit peu décaler quand même, parce qu'il s'agit plus d'un mélange, on va dire, entre le polar normal et le paranormal, genre David Nolan et tous ces trucs haunted aussi, on en a parlé. L'histoire d'un flic qui sombre dans le coma, qui revient et qui commence à pouvoir parler avec les morts. Tout ça, c'est dans Greco, donc, hein, qui est né de l'imagination du réalisateur et scénariste Philippe Sedbon, qui a un background télévisuel qui n'est plus à démontrer, hein, il a fait ses preuves déjà. Avec Philippe Bas dans le rôle principal, hein, de l'inspecteur Mathias Grekowski, dit Greco, il faut l'élément féminin juste à côté, ce sera Audrey Lunati qui interprète le rôle de Danica Miller. C'est également interprété par Maxime Leroux qui joue le rôle de Joël van der Valk. Vendredi prochain donc à partir de 20h50, deux épisodes. Alors il y a 6 épisodes qui ont été tournés pour l'instant. Deux épisodes seront diffusés vendredi prochain à 20h50. Le premier, Contact, avec Perkins Liotet. Et le deuxième s'appelle La Deuxième Silhouette, avec Sarah Stern. Sinon, tu t'intéresseras peut-être plus à la soirée animation de Sci-Fi vendredi prochain. Avec, je pense que tu l'as déjà vu, hein, à mon avis, deux films de 2001, hein, qui sont sortis dans le monde de l'animation. Et deux films japonais. Le premier, c'est Final Fantasy, hein, tiré du jeu. Hein,
c'est et là... Non, c'est pas tiré du jeu.
Enfin non, pas tiré du jeu, mais enfin bon, au départ.
Non, c'est pas le scénariste et voilà, designer, mais ça a rien à voir.
Voilà.
Hein.
Mais ils ont développé un monde complètement différent. Et là, il s'agit de l'épisode, parce que bon, il y a toute une série. Les créatures de l'esprit de 2001. C'est à 20h50 vendredi prochain sur Sci-Fi, et c'est suivi par Cowboy Bebop de la même année.
Énorme.
À 22h30.
Énorme, donc peu connu par rapport à la série, et ça change énormément. Et bon, voilà quoi, Cowboy Bebop, il y a la bande son. Il y a la bande son qui est immense, je l'ai d'ailleurs sous la main. Cowboy Bebop, c'est vraiment le truc où les Japonais ont eu le culot de dire bon, on va y mettre autant de sous dans la bande son que
vas-y, fais péter, fais
bah
péter.
Voilà, je l'ai. La bande son qui est signée par les Seatbelts, qui est le groupe en fait de Yoko Kanno qu'elle a fondé exprès. Et en fait, dans chaque épisode, ils avaient mis autant d'argent dans la production de la musique que pour tout le reste. Donc c'est pour ça qu'on a il y a 8 albums quand même. Plus après, il y a une collection de 6 CD rassemblant des singles. Il y a eu les remixes, pas faits par n'importe qui, puisqu'on retrouve Luke Vibert, DMX Crew. Il y a vraiment eu un monde monstrueux qui a travaillé sur cette série. Et le film. Alors vous y retrouverez pas le thème, voilà, c'est très différent. Musicalement, c'est toujours à tomber, et l'histoire se déroule en fait entre l'avant-dernier et le dernier épisode, puisque dans le dernier épisode, voilà, il y a une fin. Et puis voilà, et donc ça passe sur Sci-Fi. Si vous l'avez pas vu,
voilà, c'est
si vous
prochain,
n'avez pas vu la série, matez-le vous, vous allez vous en prendre plein la gueule.
On termine avec dans la série Les Spéciales, ben. Par exemple, Ouais, on se le foutra juste après, quoi, à la fin, quoi.
D'accord.
Hein, la petite spéciale, c'est ben la problématique quand t'as plein de chaînes, qu'est-ce que tu peux regarder en même temps, quoi, tu vois. Des fois, t'es là, t'as plusieurs trucs, tu dis putain, merde, dommage et tout, t'es obligé de faire des choix.
T'as le match Milan contre. C'était qui déjà ? C'était Milan.
Manchester.
Manchester Milan, puis ensuite j'ai zappé sur le début de la nouvelle star, et puis ensuite j'ai zappé sur A2. Et j'avais un problème de son national sur le départ.
Alors, je vous propose cette problématique pour mardi prochain, 8 mai, donc jour férié, avec une soirée spéciale 8 mai proposée par Paris Première tout d'abord. Le choix est un petit peu bizarre, mais bon, ouais, peut-être compréhensible. Avec à 20h50, le dictateur de Chaplin, le film de 40, hein, donc rien à dire.
Énorme.
Hein,
énorme.
Ouais, voilà. Hein, à 22h25, un documentaire d'une demi-heure sur Hitler et le procès de Nuremberg. Et à 23h25, Le Crépuscule des Aigles, un téléfilm de 94 de Christopher Menneau. Je vous en ai déjà parlé, parce qu'il est vachement intéressant. C'est interprété par, entre autres, Rutger Hauer dans le rôle principal et Miranda Richardson. Alors, c'est un scénario à la What If, c'est-à-dire que...
Réalité alternative.
Voilà, il n'y a pas eu de seconde guerre mondiale. Les États-Unis se sont mis d'accord avec Hitler et donc il y a une paix. Les États-Unis ne font pas trop gaffe à ce qui se passe. Et c'est la venue d'une journaliste américaine qui va être escortée par un officier allemand, interprété par Rutger Hauer, qui porte magnifiquement bien l'uniforme allemand, qui va se rendre compte et qui vont se rendre compte que tout n'est pas rose justement sous Hitler et qu'on a laissé pas on a laissé pisser
faut pas oublier qu'à
l'époque
qu'à l'époque Hitler avait de très très grands soutiens comme Walt Disney lui-même, Henry Ford et encore le patron de Edison à l'époque. Il avait des soutiens, mais pas des moindres. Hein. Et à l'époque, les États-Unis étaient très protectionnistes. Ils voulaient pas s'ouvrir sur le reste du monde.
Voilà,
hein. Il en a fallu pour que.
Le téléfilm est vraiment pas mal du tout. Hein. C'est à regarder. Donc, c'est à 23h25. Le Crépuscule des Aigles de Christopher Menneau avec Rutger Hauer et Miranda Richardson, entre autres sur Paris Première. Sinon, en même temps, sur AB1. Ah ouais, la rediff, j'aurais pu vous en parler déjà la semaine dernière parce que là ils ont l'air d'être dans comment tu dis en radio quoi, en rotation intense, voilà.
Ouais, lourde.
En rotation lourde, c'est China, Reine de la Jungle, le film de Guillermin de 84 avec la magnifique Tanya Roberts.
Tu m'excuseras, hein, mais.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Non, pas du tout d'accord. Et ça vaut surtout. Alors pour le générique de fin, quoi. Là, vraiment, il faut voir le film. Alors, tu te cales juste, tu vois, vers 22h30, comme ça, quoi, parce qu'à 22h40, t'as pas de pitié pour les croissants, juste après China, Reine de la Jungle. Et tu regardes juste la fin avec le générique, c'est ce qu'il y a de meilleur, de toute façon, quoi. Sinon, c'est agréable, de toute façon. Les histoires de China, Reine de la Jungle, extrait d'une bande dessinée, hein, qui est un comics, enfin, les trucs de...
Oui, c'était à la Tarzan et les strips comics que l'on trouvait dans les quotidiens.
Voilà, les strips, c'est ça que je voulais dire.
Avec la page dominicale en couleur.
Yes. Sinon, sur TF1, t'as également mardi prochain CSI Miami. Sur Canal+, il y a de l'inédit carrément, et ça peut être la bonne surprise, hein, d'ailleurs, en ce qui concerne la télé française cette année. Ça a déjà obtenu le prix du meilleur scénario au FIPA de Biarritz. Ça s'appelle Reporters.
C'est la série voulue par Gassio.
Yes.
Puisque
yes,
Bruno yes. Gassio quitte les Guignols, mais il est directeur de la fiction à Canal et il a voulu des fictions plus politisées.
Voilà, donc fiction qui raconte bien la vie de
journalistes d'investigation,
de journaux, de deux équipes de journalistes, de deux journaux, un journal télévisé. L'autre de presse, c'est interprété par Jérôme Robard, Anne Conscience, Patrick Bouchitet, Didier Bezaz, Christine Boisson. C'est du lourd, ça a l'air de bien cartonner. 8 épisodes par saison sont proposés. Ça sera sur Canal+, donc à partir de mardi prochain à 20h50. 2 épisodes donc proposés mardi prochain de cette nouvelle série Reporters. Et en même temps sur Canal+, décalé, t'as Camping. de film de Fabien Tenente.
La complémentarité, quoi.
Sinon, plus sérieux, et pour terminer, deux films qui sont des classiques maintenant, mais il y en a que peut-être tu connais pas. Bah, c'est l'occasion, celui-là tu risques moins de le connaître que l'autre. Les 5 mètres de Shaolin de Shang-Chi de 74 avec David Chiang et Tilong.
Tu te fous de ma gueule.
Ouais, mais bon, attends. C'est sur Ciné Cinéma Culte mardi prochain à 20h45. Et sinon, il y a également Blood Simple sur TCM à 20h45. C'est le premier film des frères Cohen avec Frances McDormand et tout ça, qui s'appelle 100%, je crois, la version française. En fait, Blood Simple, c'est diffusé sur TCM mardi prochain à partir de 20h45. Voilà.
Bah, je suis en train de changer de CD, figure-toi. Eh ben, c'était le supplément week-end. Oh.
Ouais, vas-y, tu le mets quand même, quoi. Allez, encore, encore musique dans l'esprit, Life on Mars, à fond, là.
Allez, Zou. Démarre-toi. Ah, attends, c'est pas la bonne place.
Non, c'est le disque qu'on avait dit.
Ah, oui, mais j'ai donné le bon numéro, mais le lecteur CD, tu sais, il en fait qu'à sa tête.
Ah, bah, c'est de bon augure pour l'émission.
Le supplément week-end sur Radio FMR du 5 mai 2007. Si vous avez manqué l'interview de Boulet de Lucie Albon, si vous avez manqué toutes les chroniques BD et toutes les chroniques albums que l'on a pu faire, vous pouvez les réécouter sur le podcast de l'émission. Pour cela, vous allez sur le site internet radio www.radio-fmr.net et vous cherchez le lien, tout ce qui est en lien avec le supplément week-end. Sinon, plus rapide, vous cherchez dans Google, vous tapez supplément week-end, puis FMR ou podcast ou MP3. Et là, vous pouvez télécharger l'émission, mais vous pouvez aussi lire les chroniques quand elles sont écrites et les commenter derrière, commenter chacune des émissions. Ça nous fera plaisir très sincèrement. Voilà, de suite à la suite des programmes sur la poubelle des radios. 15h le potager, 16h scène transmission, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 20h la CTO expérience, 21h30 stay tuned, mais de suite, ça c'est du sport.